maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de
casse. Et bonjour à toutes et tous, c'est cette fois-ci Christophe Bollinger qui a le temps de s'asseoir 5 secondes pour entre deux explications d'Earth Reborn qui va nous parler justement d'Earth Reborn. Bonjour Christophe.
Bonjour, 1, 2, 3, 4, 5, 5 secondes, je m'en vais.
Voilà, au revoir. Donc je vais tout expliquer tout seul. Alors, Christophe, on te connaît évidemment pour Dungeon Twister, tu as créé Ludicali l'année passée, tu as fait un jeu qui est différent, ce qui n'a rien à voir avec ce genre de choses-là, et puis tu reviens en force avec une espèce de, justement, un coup de force, puisque on est dans quelque chose qu'on pourrait... Allez, visuellement, on dit « Ah, encore un Dungeon Twister », mais pas du tout.
Non.
Et en plus, il y a 10 mécaniques. 11 maintenant, ça n'arrête pas.
Pas maintenant, il y avait toujours 11.
Je rigole. Il y a 11 mécaniques de jeu qu'on n'a jamais vu dans ce genre de type de jeu-là. Donc c'est on est dans un jeu de figurines qui reste accessible, mais tu vas nous expliquer comment tu as réussi à faire ce tour de force, c'est-à-dire de justement, on renouvelle le jeu, quoi.
Bah en fait, bon, moi on me connaît un petit peu pour ça aussi quand même. Ouais. Je déteste prendre ou refaire des choses qui ont déjà été faites ou même en ajoutant qu'une petite mécanique peut-être. Principalement, quand je design un jeu, ce que je cherche en premier, c'est deux choses. Ouais. Innover et rester au mieux possible simulateur par rapport aux différentes techniques que je veux mettre en place. Pas de technique, mécanique. Aux différentes choses que je veux simuler.
Ouais.
Donc pour chaque différente chose que j'ai voulu simuler dans le jeu, j'ai cherché une mécanique qui allait bien avec ce que je voulais simuler et en même temps que ce soit original. Donc effectivement, au final, quand j'ai un peu dénombré, il y a pas moins de 11 nouvelles mécaniques dedans. Pas toutes forcément totalement nouvelles dans l'univers global du jeu, parce que certaines choses, on sent que ça vient un peu d'autres styles de jeu, comme Magic,
ouais,
ou comme les jeux à l'allemande, mais il y a plein de choses que les gens n'ont pas osé utiliser ou faire, ou n'ont même pas pensé à faire, peut-être, dans un Special Clive ou un jeu à méritrash, comme certains l'appellent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu démarres sur des idées, tu te racontes une histoire, tu les vois jouer, tu vois tes personnages évoluer dans le monde que tu t'es créé, et tu dis ça, j'aimerais bien arriver à le simuler, et tu cherches?
En fait, moi, je crois que c'est plus que ce que j'aimerais bien simuler.
Ouais.
Je cherche ce que j'aimerais bien simuler. Surtout, je pense que ça ne va pas chercher dans... Je ne vais pas chercher dans tous ces détails. Si tu veux, quand j'ai fait Dungeon Twister, j'ai cherché à faire quelque chose que je rêvais depuis 15-20 ans et qui, en fait, était un petit peu l'air de rien pour moi dans mon top 5. Ça a été mon remplaçant de Full Metal Planet parce que c'est un des seuls jeux de plateau où il y a zéro hasard. Donc, on va dire que quand j'ai fait DT, j'ai cherché à changer mon top 5 et à remplacer Full Metal par Dungeon Twister.
Ouais.
Là, j'ai fait un peu la même chose. Special fait partie de mon top
5.
Ouais. J'adore Special, mais je trouve que c'est limité par le mouvement, le corps à corps et le shoot.
Ouais.
Je voulais qu'on puisse faire beaucoup plus d'actions qu'on fait dans des jeux de rôle.
Ouais.
Donc, je voulais faire mon Special-like, mais en outrepassant Special, pour moi, il était hors de question que je fasse un Special-like qui soit équivalent ou inférieur à Special, en tout cas dans mon cœur.
Ouais,
je dis bien toujours dans mon cœur, de mon point de vue, on va dire du point de vue des playtesteurs que j'ai dans le sud de la France.
Ouais,
voilà. Tout à fait. Et donc, là, tu évoques Special, on se retrouve dans un univers où il y a deux groupes qui s'affrontent. Mais en plus, dans ce genre de jeu-là, on a toujours peur, effectivement, de la richesse ou du fait qu'il y ait un temps d'apprentissage qui soit énorme. Sauf que là, en plus, tu as fait le tour de force de faire des règles qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur un scénario et puis à chaque fois, on va rajouter une petite couche de règles et donc on apprend à jouer en jouant.
Exactement. En fait, j'avais fait le tutoriel pour Earth Reborn avant de faire celui que j'ai fait pour DT. Parce que j'ai fait le tutoriel pour Earth Reborn qui en a vraiment besoin.
Ouais.
Comparé à DT, il sortait une première édition, il n'y avait pas de tutoriel, ce qui prouve bien qu'il n'en avait pas besoin et il a marché sans ça. Mais voyant comment ça marchait pour Earth Reborn, j'ai dit, bah tiens, pour DT, pour descendre l'âge à 8 ans, même, autant faire un tutoriel.
Ouais.
Principalement, j'ai fait le tutoriel parce que ma fiancée de l'époque, je l'ai connue quand je travaillais sur Earth Reborn, donc il y a 3 ans. Et malgré que j'ai 2000 jeux chez moi, elle voulait à tout prix jouer à ça. Et dans ses connaissances ludiques, parce que j'ai connu, c'était pas une joueuse, elle ne connaissait que Uno et Pictionary. Donc pour la faire passer de Uno et Pictionary à un jeu plus gros que Space Hulk, c'était le tour de force impossible.
Okay.
Et c'est là que j'étais à la semaine ski à Valmeny avec tous les joueurs de Trick Track et tout ça. J'ai commencé à cogiter en me disant, mais il faut absolument que tu arrives à la faire jouer, elle veut tellement y jouer, c'est tellement agréable de jouer avec ta copine, de tester tous les scénarios en rafale. Donc j'ai décidé de segmenter toutes mes règles en gros blocs de règles indépendants et de faire que chaque scénario t'indique les règles dont tu as besoin. Et j'ai écrit l'histoire de chaque scénario de manière à ce que tout s'enchaîne un peu comme un feuilleton télé. Ouais. Et donc toutes les semaines, je lui ai amené son nouveau petit scénario qu'on laissait sur la table toute la semaine. Et en fait, malgré que ce soit pas joueuse, c'était tellement simple au début. Il faut savoir que le premier scénario, on m'a chronométré à Lyon, à Paris, ici à SN. En français, je mets 6 minutes pour expliquer les règles. Ouais. En anglais, je mets un peu plus, c'est moins ma langue natale quand même.
À des joueurs qui ne connaissent pas le jeu de figurines, on déploie le jeu et après 6 minutes, ils jouent.
Voilà, à des joueurs... Il y a des joueurs qui sont quand même des joueurs, ouais, mais par exemple de Colon de Catane, enfin les joueurs que tu rencontres à SN, ouais, voilà. Ouais. Je mets 6 minutes à expliquer les règles en anglais. Un joueur qui a découvert le jeu à Lyon et qui a tellement craqué qu'il est venu nous aider, il est là, il fait des démos et il joue aussi. Ouais. Il s'est chronométré tout à l'heure, lui, parce qu'il s'est un peu le concours. Il a mis 9 minutes pour expliquer le premier scénario, ce qui prouve bien que c'est pas que moi qui connais le jeu. Il a téléchargé les règles sur le net et il les a lues de lui-même. Donc c'est franchement très accessible au premier scénario. Et le comble, c'est que c'est rédhibitoire, enfin, je sais pas, c'est régressif de dire que chaque scénario est un scénario de tutoriel dans le style d'un tutoriel d'un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, un tutoriel, tu passes, tu prends un objet, tu sors et voilà, tu le refais plus. Ouais. Là, chaque scénario, tu peux le rejouer au minimum 4-5 fois. Et quand je dis 4-5 fois, c'est même avec la même personne. Ouais. Donc tu vas passer au scénario suivant à ton rythme. Ouais. Tu joues avec ton petit qui a 8 ans. Il va vouloir jouer 4-5 fois et au bout d'un moment, il va dire « Bon, j'aimerais bien voir la suite, j'aimerais bien pouvoir tirer, j'ai pas d'armes là et tout. » Et donc, tu vas lui expliquer 2 pages de règles, ce qui représente 4-5 minutes. Ouais. Et hop, tu passes au scénar suivant. Okay. Et en fait, voilà.
Donc, ok. Earth Reborn, c'est quoi finalement ? On est dans un affrontement, mais il y a un background derrière. En gros, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va plus se focaliser sur Théon's fameuse mécanique, le background, c'est quoi ?
Alors, le background, c'est donc un jeu post-apocalyptique. L'histoire, dans le livret de scénario, on a tout le background qui fait 11 pages déjà, donc pour prouver qu'on est un jeu qui est à la frontière du jeu de rôle, un plateau jeu de rôle. Les 2 premières pages racontent la fin de la Terre, malheureusement. Ça commence en 2010, donc maintenant, et ça part des événements actuels. Donc tout est très très réaliste jusqu'au bout. D'ailleurs, à ce propos, il y a plein de gens qui l'ont lu le soir, qui m'ont dit « Ouh là là, on en a fait des cauchemars ». Donc je préfère déconseiller aux gens de lire ça le soir avant d'aller se coucher, parce que c'est tellement réaliste que ça peut faire... Enfin, on peut se dire « mince, ça pourrait arriver tout ça ». Après, à partir de l'apocalypse, ça part un peu en délire, ils s'enferment sous terre, et il y a 2 factions. Une qui s'enferme dans la Shane Mountain, qui est la base NORAD, qui était aux Américains, qui contrôlaient les missiles et tout aux États-Unis, dans l'Arizona, je crois, ou le Nevada. Ouais. Et qui construisent une ville là-dessous, c'est des militaires. Donc ils vont ressortir, chacun qui s'enferme dans sa ville souterraine pendant près de 5 siècles, va bien sûr continuer à cultiver ses connaissances, mais oublier les autres en partie.
Ils ne voient plus le soleil pendant 500 ans.
Exactement, enfin, ils ont des soleils artificiels, tout ce que tu veux, enfin, ils ont trouvé, mais ils ont, voilà. Et donc les NORAD, ils vont ressortir de là, c'est toujours des militaires, ils ne savent pas trop comment c'est dehors, ils ont toujours peur des représailles, et c'est des stratèges militaires, morales, tout est là-dessus. De l'autre côté, l'autre clan, l'autre faction qu'on a au départ, qui sont enfermés à Salem City, donc dans le Massachusetts, donc à l'autre côté un peu des US, eux, ils sont enfermés sous le cimetière de Salem, que le maire a donné pour faire la ville. Et bien sûr, la plupart des gens qui dirigent le truc, les 5 grands dirigeants, c'est des occultistes. Ils sont décimés par un virus au début, leur population divise presque par moitié et tout, donc ils commencent à verser dans l'occultisme, essayer d'étudier les cadavres des virus, et finalement, au bout des années, ils commencent à raviver les morts. Et quand ils émergent 500 ans après, la moitié de leur population, c'est des humains, l'autre moitié, c'est des zombies qu'ils esclavagisent. Et un petit bout qui reste, c'est ce qu'on appelle les cobayes. C'est les humains de leur faction qui ne cautionnent pas du tout ce qu'ils ont fait pendant ces siècles et qu'ils ont parqué comme des cobayes pour faire des expériences et des études dessus. Quoi. Ouais, donc c'est un peu quand même... Disons qu'ils sont méchants.
C'est super c'est fun, quoi.
C'est vrai. C'est les méchants, mais quand tu lis le background, ils ont tellement subi de choses. Tu as presque pitié pour eux au début. Tu cautionnes ce qu'ils font plus ou moins. Pas tu cautionnes, mais tu cautionnes presque. Voilà. Et donc là, le jeu démarre quand... Les 2 factions se rencontrent pour la première fois, sachant qu'il y en a une qui est remontée à peu près 3 ans avant l'autre, en attendant les tombées des radiations et tout. Et donc ce qui est marrant dans le background, c'est que tout est raconté, ça fait les 11 pages, et à la fin, tu as le 21 septembre 502 post-apocalyptique, et le premier scénario, quand tu regardes la page derrière, il commence le 21 septembre 502. Et après, tu as toutes des dates pour chaque scénario, donc tu as vraiment l'impression un peu de suivre une histoire et de la faire évoluer au fur et à mesure. Voilà.
Donc effectivement, le terme scénario est bien choisi, c'est pas un tutoriel. Quoi. Donc justement, on va peut-être pas faire les 11 mécaniques, mais choisissons quelques-unes qui expliquent justement la facilité d'accès. On parlait des 6 minutes de règles. Quelles sont les premières règles qu'on explique pour pouvoir jouer aussi rapidement à un jeu qui a l'air aussi complexe ?
Alors, ça n'a rien à voir donc avec les 11 nouvelles mécaniques. C'est quelque chose à part, je pense. Mais dans le premier scénario, tu utilises 3 blocs de règles. Les règles de base, les core rules, qui est le cœur des règles, on va dire. Tu vas utiliser les mouvements et le corps à corps. Donc dans le premier scénario, malgré que ce soit une cover où il y a plein de flingues et tout ça, tu shootes pas. Et au deuxième scénario, quand tu joues, tu te rends compte, tu regardes les icônes et tu te dis mince, je shoote toujours pas. Tu commences à shooter qu'au troisième scénario. Ouais. Ce qui prouve bien que dans le jeu, tu fais bien d'autres choses que juste shooter et faire du corps à corps. Ouais. Et que tu as bien d'autres intérêts et de choses à apprécier avant de shooter. Ouais. Donc, ça va vite à expliquer parce que les core rules sont assez basiques, assez simples. Tu engages à chaque. C'est des tours de jeu qui vont très très vite, un peu à l'allemande. À ton tour, par exemple, si j'achète une tuile d'or, je paye un point de commande, je pioche ma tuile, fini, à toi. Ouais. Si je vais choisir une tuile dans la défausse, je paye deux points de commande, je vais la prendre dans la défausse, à toi. Ouais. Et même, je cherche, je fouille dans la défausse pendant que tous les autres jouent.
Voilà. Et chaque joueur joue individuellement ou il y a une équipe ?
Alors, il y a dans la boîte de base, le tutoriel en 9 scénarios, il est pour deux joueurs. D'accord. Le SAGS, dont on n'a pas parlé encore jusque-là, qui veut dire le système autogénérateur de scénarios, qui te génère une infinité de scénarios avec vraiment des fils conducteurs, des histoires, des oppositions, des croisements, enfin plein de choses que tu ne peux même pas imaginer à l'avance. Lui, il joue à 2, 3, 4 et 2, 3, 4 totalement indépendants, chacun pour sa pomme. Voilà. Après là je suis en train de designer un tutoriel complet pour 3-4 joueurs parce que si tu veux jouer à 3-4 t'es obligé d'aller au bout du jeu, donc comme si t'avais acheté un StarCraft, te taper les 35 pages de règles et expliquer tout ça. Or moi je voudrais que les joueurs à 3-4 puissent se plugger un peu où ils veulent. Alors ils veulent jouer le premier scénar, 6 minutes d'explication, c'est ce qu'on fait ici. Tu peux avoir, donc ces scénarios là ils seront sur le site de Earth Reborn dès le retour des scènes. J'ai déjà 3 scénarios qui sont prêts, qui sont testés là et qu'on va mettre.
D'accord.
Donc voilà pourquoi ça s'explique assez vite, parce qu'au début, t'as que mouvement, corps à corps et les règles de base. Ouais. Ce qui n'empêche pas que t'as suffisamment de contrôle, de tactique et de. Enfin, les règles sont suffisamment pas riches, mais la mécanique est suffisamment riche pour que tu puisses te faire super plaisir tactiquement sur le premier scénar et le jouer plein de fois. Voilà, c'est ça.
Ok, justement, quels sont les différents modules, 2-3 modules que tu choisis pour. J'ai entendu parler, il y a de l'espionnage, il y a une communication radio qui est simulée, il y a ce genre de choses-là qui est pas habituel.
Tu veux quoi ? Donc je te cite ceux qui me viennent à l'esprit,
oui,
qui sont
exemple,
les plus.
Sans passer sur les 11, sinon on va passer une heure.
Oui, mais ça, c'est pas les 11 non plus. Oui. C'est les blocs de règles, si tu veux, ça c'est les 11 points novateurs, c'est. Bon, je te dirai à peu près des exemples tout à l'heure, mais les blocs de règles, tu as l'espionnage, effectivement, tu as la fouille. La fouille est un des points novateurs qui est extrêmement original. La plupart des joueurs, ils disent, putain, ça on n'a jamais vu. Tu as des dés noirs, et des jaunes pour le combat et des dés noirs pour la fouille. Et sur ces dés noirs, tu as des cartes, un nombre de cartes représentées, quelques icônes. Ouais. Et ces icônes te permettent. Alors, tu as un paquet de cartes de 31 cartes. Équipement recto verso. Ouais. Et au début, le scénario te dit qu'est-ce que tu as comme équipement, donc tu en as une ou deux par personnage. Et donc, il va en rester, si on est à 4, peut-être une vingtaine dans le paquet, ce qui veut dire 40 équipements parce que c'est recto verso. Ça, c'est mélangé, c'est mis sur la table et tout le monde voit le dessus de cette pioche et on appelle ça la pioche de fouille. Ouais. Quand tu fouilles, tu viens dans une salle, toutes les salles ont un type de salle, science, technique, officier, habitat, il y en a 6. Quand je suis dans un type de salle, je vais regarder la capacité de fouille de mon personnage, je vais lui descendre une tuile de fouille, je vais lui mettre des points de commande pour l'activer, et plus j'en mets, plus je vais me donner passer du temps, ça symbolise que je passe du temps à chercher. Donc si je mets 4 points de commande, le premier point va activer mes stats de base, par exemple ce personnage, il a droit à 3 dés noirs, ok. Et chaque point de commande que je mets en plus, c'est un dé en plus. C'est le temps que je passe à fouiller, on va dire.
D'accord.
Donc si je mets 4 points de commande, mon gars, il aura 6 dés. Par je jette mes 6 dés, je fais le total de mes points de carte qu'il y a dessus. Il y a des cartes que tu vois. Je vais avoir par exemple 11 points de carte. Je prends mon deck, la pioche de fouille, pardon, et je vais avoir l'icône par exemple de. Disons que j'ai eu le max change, j'ai l'icône de flip, de mélange et un espionnage. C'est les 3 autres icônes que tu as. Pour un point, je vais passer une carte qui ne me plaît pas, qui est au-dessus, en dessous. D'accord ? Et pour un autre point, je peux le faire encore, et tant que je veux. Les icônes, je peux les utiliser quand je veux. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux flipper le deck, je vais prendre tout le paquet, je le retourne de l'autre côté, et je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté.
D'accord.
Si je me rappelle un peu ce que les joueurs avant ont fait, parce qu'on se montre tous ce qu'on fait quand il y a ça, donc il faut mémoriser un peu ce que les uns et les autres ont fait, où est-ce qu'ils ont mis les cartes, comment ils ont planqué. Je vais essayer de me rappeler que elle est derrière, de l'autre côté, en troisième position. Donc je vais d'abord flipper, faire passer 3 cartes et hop, je tombe dessus. Ok ? Après, tu as la remélange. Alors là, c'est en général quand t'en as marre, tu trouves rien, tu vas sous la table avec tes mains, bien sûr, pas toi, hein. Tu mélanges comme tu veux, sachant que tu fais ce que tu veux. Donc ça peut être soit je remélange vraiment, soit je fais genre je remélange, mais je sais que la carte que je veux, l'autre joueur, je l'ai vu passer tout à l'heure, il l'a mis au fond en deuxième position. Je vais aller la chercher sous la table sans regarder, bien sûr, j'ai pas le droit, et je vais la mettre en troisième position sur le dessus, juste pour pas qu'il la voie vraiment, mais moi je sais où elle est. Donc la prochaine fois que je vais fouiller, en croisant les doigts que personne n'ait fouillé avant moi, je vais me débrouiller pour être dans la bonne salle, jeter une grappe de dés, et là je vais plus utiliser les flips et tout ça, je vais juste faire passer les cartes et je vais tomber sur celle que je veux. Ensuite, tu as l'espionnage, le point d'espionnage, il te permet de prendre les 3 premières cartes, tu vas à part, tu les regardes, donc tu as 6 faces à voir, 6 équipements, et je les réordonne comme je veux. Mmh. Encore une fois, si je sais que toi, tu dois absolument trouver l'ordinateur portable qui date d'avant l'explosion nucléaire, parce qu'il est plein de data vitale, je vais le mettre tout au fond, bien planqué dans un autre coin pour pas que tu l'aies.
Ouais,
et ça, c'est cumulable. Si j'ai 3 points d'espionnage, je peux regarder les 9 premières cartes. Quand tu sais qu'il y a 20 cartes dans le deck,
ouais,
c'est plus du hasard. Là. Ouais. C'est, tu as vite fait de vraiment avoir un contrôle sur la fouille.
Ouais.
Et le truc surtout, c'est que quand tu fouilles, tu as le paquet de cartes, quand c'est les premières fois, hein, quand tu sais pas vraiment, tu as vraiment le sentiment de fouiller.
Ouais.
Là, c'est même pire que dans un jeu de rôle où quand tu dis tu fouilles, le mec jette des dés, le DM il te dit tu trouves ça, tu trouves ça. Là non, tu as vraiment le sentiment de fouiller dedans et de trouver que les objets qui sont dans le type de salle où tu peux les trouver.
Ouais,
ça, c'est une des 11 mécaniques novatrices.
Ouais.
C'est une belle démonstration déjà.
Donc, ouais, c'est mieux avec les cartes dans les mains.
Et oui,
avec...
mais bon, ouais, une chose à la fois. Ok, donc voilà, je veux dire.
Il y a une autre truc, si je peux me permettre, un autre point mécanique que j'aime beaucoup et qui est surtout utilisé dans le SAGS, c'est qu'on a un cadre tout modulaire en puzzle qui fait un cadre. Et en fait, on vient placer toutes les pièces de sol dedans. Elles ont toutes des formes différentes comme des pièces de Tetris. Il y a 91 tuiles dans le jeu qui sont toutes recto verso, ça fait 182 tuiles différentes. Et quand on joue les SAGS, on monte le cadre le plus grand, on fait des tas par forme de Tetris, chaque joueur prend une pile, celle qu'il veut, et on va choisir une de ces salles, côté recto ou verso, qui est intérieur ou extérieur, et on va tous jouer à Tetris dans le cadre, jusqu'à ce qu'on ait rempli tout le cadre avec des salles, et en respectant bien sûr certaines règles de construction qui ne donnent pas des maps absurdes, mais qui sont très très simples. Les règles de construction, ça ne tient même pas une demi-colonne des règles.
Ouais.
Et quand on a tous joué à Tetris bien jusqu'au bout en ayant rempli toutes les cases, on a une nouvelle map à chaque fois. Et c'est ça qui génère le SAGS. Donc ça, dans un jeu Space Like de Steep, ça n'existe carrément pas. Jouer à Tetris dans un cadre pour générer ta map, ça c'est le truc délire. Voilà. Les idées disjonctées.
Voilà.
Donc tu l'as dit, il y aura une suite en plus. Enfin, il y a déjà une évolution qui est prévue. Je sais que c'est déjà méchant comme sortie.
Mais... Non, mais tout le monde demande ça. Et c'est à juste titre, je me rends compte. Disons que dans la boîte de base, là, quand on a discuté avec des spécialistes de ce genre de jeu figurine sale, comme Philippe Villet, que tu connais peut-être, Laurent Duclos, qui sont des anciens rédacteurs, enfin des rédacteurs de Ravage, donc les magazines figurines et tout, et ils ont joué ça au monde du jeu, et à la fin, on en a discuté, ils ont dit « Putain, mais c'est vachement riche et tout, c'est incroyable ». Et j'ai dit, moi, je pense que c'est aussi riche qu'en 90, quand il y avait Space Hulk, Deathwing, la première ascension, et Gene Stealer en plus. Ouais. Tu mets tout ça ensemble, et pour moi, t'as en richesse le contenu qu'il y a dans leur Freeborn.
Ouais.
Et là, ils me regardent tous les deux en même temps et ils me disent « Non, il y a plus que ça. »
D'accord.
Donc, pour dire la vérité, pour être totalement anticommercial, avec cette boîte, ils peuvent jouer pendant 2 ans avec le SAGS, les scénarios 4 dedans, ce qu'on va mettre sur le net, sur le site. Même une fois par semaine, voire une fois par jour, ils n'en verront pas le bout. C'est un peu comme d'été, tu ne peux pas en voir le bout comme ça.
Ouais.
C'est même voire plus, c'est plus modulaire.
Ouais.
Mais effectivement, j'ai déjà développement une faction... une nouvelle faction parce qu'en fait il y a 20 villes souterraines qui ont été faites, donc a priori j'ai la possibilité de faire jusqu'à 20 factions différentes et j'ai déjà des idées de choses qu'on va mettre en download sur le net, donc des petites extensions qui vont vachement rebooster le jeu aussi, mais qui seront gratuites sur le net. Et surtout voilà, une faction plus de zombies aussi pour avoir des scénarios, il pourra en avoir plus. Là il y a 3 figurines et demie, parce qu'il y en a, c'est pas vraiment, il n'est pas considéré comme un zombie, mais il y a 3 zombies grosso modo.
Ouais.
Et le Salemite n'a pas le droit de fabriquer plus de zombies qu'il n'y a de figurines. Mmh. C'est une limitation volontaire pour l'équilibre du jeu. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais dans d'autres scénarios, il pourrait très bien avoir 5, 6, voire plus de zombies.
Ouais,
plus tomber dans un jeu de zombies. Là, il y a des zombies, mais c'est pas vraiment un jeu de zombies comme les gens l'imaginent, avec des masses de zombies qui arrivent et qui ont des gommes comme un rien.
Ouais.
Là, les zombies, il n'y en a que 2-3, et quand tu les advances, surtout celui qui a la grosse tronçonneuse, tu cours loin plutôt que de rester en face et de dire oh, je suis un zombie killer, je vais me le faire.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Alors, le jeu est édité par Ludicali, c'est ta société d'édition, mais en collaboration avec Zinman Games. Mmh. C'est là qu'on reconnaît aussi leur expérience à faire du jeu à l'américaine.
En fait, Zinman a vu le jeu il y a 2 ans en prototype, ici à Essen. Il n'a pas joué, j'ai juste sorti le jeu, on a discuté peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure, le temps que je lui passe en revue tout ce qu'il y avait.
Ouais.
Et au retour d'Essen, il n'arrêtait pas de m'envoyer des emails, presque 2 fois par mois, on va dire. Tous les 15 jours, j'avais un mail. Bon, alors, quand est-ce que je pars le proto? On s'y met. Il voulait déjà, avec ce qu'il avait vu, ça suffisait à le convaincre, il voulait le tester. Moi, j'étais à fond sur Dungeon Twister avec Jean-Charles, pour Ludicali, on n'avait pas de temps. Et. C'est vrai que je le laissais de côté, on était trop concentrés là-dessus.
Ouais.
Et puis à force qu'il me bassine, j'ai qu'un proto de chaque jeu que je fais.
Ouais.
Je suis un gros fainéant du proto. Mais au final, j'ai été emprunter le proto d'un de mes potes niçois, d'un de mes playtesters qui s'en était fait un.
D'accord.
J'ai dit, écoute, je vais l'envoyer aux US pendant quelques mois. Si tu veux jouer, tu viendras jouer chez moi.
Ouais.
J'envoie à Zeeman. Zeeman est un des rares éditeurs, je pense, qui pousse, à mon avis, les choses, mais jusqu'au bout, comme ça, à tester vraiment à fond. Surtout sur un gros jeu comme ça.
Bah, oui.
Et il a poussé Freeborn en playtest très loin. Il a tout lu les règles, en tout cas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'était impossible de... Ah ouais, non, dire non, quoi. Donc, genre, je recevais des mails. Alors, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le fait? Puis, ils voulaient des quantités, mais tous les deux mois, elles augmentaient, quoi.
Ah oui.
Bah oui, bah à la fin, il en a pris 10 000.
D'accord.
Donc, il l'a testé, et s'il en veut 10 000, c'est parce qu'il le fait en connaissance de cause,
ouais.
parce qu'il sait qu'il y a un potentiel phénoménal, que c'est un jeu améritrash, mais avec plein de mécaniques à l'allemande, comme les Américains apprécient de plus en plus,
ouais.
avec énormément de contrôle, modularité extrême, borderline jeu de rôle comme on peut pas plus, etc., etc. Donc c'est grâce à lui, parce que nous tout seuls, on aurait pu le faire, mais il aurait été super plus cher.
Ouais.
Et la raison pour laquelle on arrive à le sortir à si peu cher, c'est parce qu'on en a tiré un nombre énorme et que les trois quarts partent aux US et le reste reste en Europe. Voilà.
Ouais.
Mais grosso modo, c'est Ludicali qui a fait tout le design complet, les règles. Et Zeeman a validé tout ce qui est anglais, les règles et tout ça.
Ouais.
Et surtout, il s'engage avec nous, enfin, met les billes pour pouvoir faire produire autant de boîtes. C'est surtout ça qui nous aide. Voilà.
Ok.
Mais bah... il nous a fait totale confiance sur tout le côté créatif, design, look et tout ça. Quoi.
Ouais. On te reconnaît bien là, de toute façon aussi. Hein. Donc voilà, bah écoute, bravo. Je crois qu'il faudra attendre un petit peu aussi pour avoir les boîtes.
Alors ça sort, on pensait l'avoir ici à SN, on n'a eu qu'une dizaine de boîtes pour les démos. Ça, on va recevoir ça fin novembre. On espère que ça sera dans les magasins, en tout cas en France. Fin novembre, enfin France et Belgique, bien entendu. Hein,
aussi,
je suis sûr que ça arrive plutôt en Belgique que ça arrive à Nice. On est les derniers servis dans le sud de la France. Donc fin novembre, début décembre, le prix de lancement, parce qu'on a bien discuté avec Asmodée là, j'ai dit pourquoi le prix de lancement, parce qu'il y a 2000 boîtes en français, 2000 boîtes en anglais pour toute l'Europe. C'était les estimations d'Asmodée pour un gros jeu comme ça. On est peut-être en dessous, vu les précommandes et tout ce qu'on nous bassine avec.
Ouais.
Il est à 59 euros parce qu'on a eu un gros tirage. Si jamais on devait retirer que pour l'Europe ou la France, et que Zeeman n'est pas en rupture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un gros tirage comme ça, on ne pourra pas maintenir ce prix. C'est pour ça qu'on sera peut-être 10 euros plus cher ou quoi. Donc c'est important de savoir que c'est vraiment c'est une première, hein, parce qu'on a discuté ce matin avec Asmodée, on se rend compte que la demande est grosse. Et si on devait retirer que pour la France et qu'on doit en tirer 2000 ou quoi, on ne pourra jamais tenir ce prix-là. Donc il faut que les gens sachent à l'avance, c'est un prix de lancement, un gros effort de Zeeman et de Ludicali, on va dire. Et à 59 euros, comparé aux jeux FFG et tout ça, qui sont en général dans les 70-80, plutôt 80, c'est vrai que tous les joueurs, ils hallucinent quand ils voient tout le matos qu'il y a dedans.
Voilà,
tout
à fait. Non, ça rentre dans la gamme, et la gamme, enfin, le prix va avec le jeu, c'est logique. Parfait, bravo Christophe.
Et merci.
Et bravo à ton collaborateur.
À Jean-Charles, oui, bah, l'homme de l'ombre qui a bossé aussi comme un taré.
Ça, c'est clair. Et donc voilà, après Essen, il est temps de faire un petit peu dodo, je pense. Et puis,
Ah oui. Dodo au milieu des zombies.
Voilà.
Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce boîtecast? Alors continuez. Sur boîtecast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.